Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud. C'était Nazir, page 2, Daf Bet. Bonne écoute et bon limoud.
Cette Maseret, donc Maseret Nazir, comme son nom l'indique, parlera de Nazir. Traduction littérale, c'est le séparer, c'est-à-dire celui qui se sépare de ses semblables en se sanctifiant par un vœu d'abstinence. La Torah, dans Bamidvar Vav, donc Parashat Naso, énonce toutes les lois concernant ce Nazir. Ces lois seront d'ailleurs discutées tout au long de la Maseret. Sommairement, il y a trois interdits qui concernent ce Nazir. En premier lieu, il aura l'interdiction de consommer tout produit de la vigne, c'est-à-dire non seulement le vin et le jus de raisin, mais aussi les autres produits de la vigne, comme les raisins secs, même le vinaigre de vin, les pépins de raisin, etc. Deuxième interdiction, il n'aura pas le droit de se couper les cheveux. Il devra donc se laisser pousser les cheveux jusqu'à la fin de cette période d'abstinence. La troisième interdiction est que le nazir n'aura pas le droit de se rendre impur par le contact avec un mort ou en étant sur le même toit qu'un mort. Il n'aura donc pas le droit de participer à l'enterrement d'un de ses proches parents, comme d'ailleurs pour le Kohen Gadol. Exception sera faite pour le cas d'un mort qui n'a personne pour l'enterrer. Là, ce sera une mitzvah de l'enterrer, même si il est nazir, donc il se retrouve avec un mort qui n'a personne pour l'enterrer. Il aura le droit, et ce sera même une mitzvah, de s'en occuper pour l'enterrer. Si, pendant cette période d'abstinence, qui peut varier d'ailleurs entre un minimum de 30 jours jusqu'à l'infini, le nazir sera impur par le contact d'un mort, qu'il s'agisse d'un cas permis ou non, soit volontairement, soit par inadvertance, il devra tout d'abord se purifier en se faisant asperger de l'eau contenant de la cendre de Parah Adouma, comme c'est décrit dans Parashat Chukat, le troisième et le septième jour. Quand il s'est purifié, donc le septième jour, il devra se raser les cheveux. Le huitième jour, il devra offrir un korban au Beit HaMikdash. Ce korban sera composé de deux tourterelles ou de deux pigeonneaux, dont un sera offert en tant que korban Ola, l'autre sera offert en tant que korban Chatat. En plus, il devra offrir un agneau qui sera offert en tant que korban Hacham. Puis, il devra recommencer à nouveau sa période d'abstinence, c'est-à-dire s'il s'était engagé à une période d'abstinence de 2 ou 3 mois, par exemple, il devra à nouveau commencer une période d'abstinence de 2 ou 3 mois, selon le cas. À la fin de la période d'abstinence, donc quand il termine sa nezirut, il devra venir au Beit HaMikdash et offrir le korban qui suit. En premier, il amènera une brebis dans sa première année qui sera offerte en tant que korban khatat. En deuxième, il offrira un mouton lui aussi dans sa première année qui sera offert en tant que korban ola. Ce korban ola sera accompagné de nesachim, de libation, qui est composé d'une offrande à base de farine, donc une mesure d'un dixième de hefa de farine pétrie avec une mesure de 3 lougs d'huile qui seront donc offerts sur le misbéach, et en plus une mesure de 3 lougs de vin qui sera versée aussi sur le misbéach. En troisième, il offrira un bélier, donc dans sa deuxième année, qui sera offert en tant que korban shlamim, lui aussi accompagné de libation réglementaire, qui sera donc une offrande à base de farine d'une quantité de 2 dixièmes de hefa de farine pétrie avec 4 lougs d'huile qui seront donc offerts sur le misbéach, et puis on versera aussi 4 lougs de vin sur le misbéach. En outre, ce korban shlamim était accompagné d'un panier contenant 20 pains azim. C'était donc des matzot, du pain qui n'a pas fermenté, qui était fabriqué à partir d'une quantité de 6 isarom, 6 dixièmes de hefa, plus 2 tiers de ce isaron, ce qui fait environ une quantité de 16 kilos de farine. Ces pains étaient fabriqués de deux manières. 10 de ces pains est ce que la Torah appelle chalot belulot bashemen, donc c'est une espèce de boule de pâte qui aurait été cuite. Dans la pâte, on a ajouté une petite quantité d'huile qui est 1/8 de loug, environ donc un demi-verre d'huile. Les 10 autres pains étaient ce que la Torah appelle rikike matzot meshuchim bashemen. C'était des pains qui auraient été aplatis, donc comme nos matzot que nous avons pour Pessah, qui ont été enduits avec la même quantité d'huile, 1/8 de loug, donc un demi-verre d'huile. Après l'offrande des korbanot, le nazir devait se raser entièrement la tête avec un rasoir, puis classer ou faire brûler ses cheveux dans le feu qui situé sous le chaudron qui faisait cuire la viande du korban shlamim. Avant la cuisson du korban, le Kohen aura prélevé les graisses destinées à être brûlées sur le misbéach, telles que c'est décrit dans Vaïkra, le troisième chapitre, concernant le korban shlamim. Et puis aussi, il aura prélevé la poitrine et la cuisse droite qui était destinée au Kohen, telles que c'est décrit dans Parashat Tsav, donc Vaïkra, chapitre Zayin. En plus, après la cuisson du korban, le Kohen prélevait l'épaule droite de ce korban shlamim, puis et un de chacune des deux sortes de pain, et il plaçait le tout sur les mains du nazir. Ensemble, il balançait le tout, puis le Kohen mettait les graisses à brûler sur le misbéach, et le reste revenait au Kohen. Le reste de la viande du korban shlamim était consommé par le nazir. Après donc l'offrande de ces korbanot, le nazir avait le droit de boire du vin, sa période d'abstinence était terminée. Ceci est le résumé des lois du nazir, telles que la Torah le décrit dans Parashat Naso, Bamidbar Vav. Il y a en plus, en particulier concernant le nazir, plusieurs halachot qui n'ont pas été écrites dans la Torah, c'est ce qu'on appelle halachal Moshe Misinai, qui ont été transmises oralement à Moshe au Mont Sinaï. Nous le verrons tout au long de la Maseched, comme par exemple la loi concernant celui qui prend sur lui l'engagement d'être nazir pour toujours. Les lois diffèrent, ne sont pas exactement comme nous l'avons décrit plus haut. Nous le verrons plus loin dans la Maseched. Ce qu'il y a de particulier dans notre Maseched, c'est que, comme l'explique l'Erishonim tout au long de la Maseched, que le langage de la Maseched est particulier. La Gemara emploie des tournures de phrases et des raisonnements que nous ne voyons pas habituellement dans les autres Gemarot. Deuxièmement, comme le précise le Rabbi Akiva Eiger dans notre première page au nom du Rida, c'est que le commentaire situé à droite de la Gemara ne vient pas de Rashi, mais c'est en fait d'un Baal et Tosfot. C'est pourquoi nous avons choisi pour notre commentaire de suivre essentiellement le commentaire du Rosh et du Tosfot. Sur ce, nous allons donc commencer le shiur de Nazir Davbet. Avant de commencer la Mishnah, nous allons encore ajouter une petite introduction. Pour qu'un vœu prenne effet, il faut que la personne qui formule ce désir donc de prendre sur soi un vœu soit consciente d'abord de ce qu'elle dit. Deuxièmement, il faut qu'elle exprime son vœu d'une manière claire et intelligible. Et ce, soit en Lashon HaKodesh, soit en toute autre langue, à condition bien sûr que cette personne comprenne ce qu'elle dit. Cependant, les Chachamim disent qu'on peut employer aussi une espèce de dialecte ou dérivation de langage que la Mishnah appelle Kinuyim. Il y a là-dessus une machloket entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish dans Nedarim Dafyud. Selon Rabbi Yochanan, ce sont des dérivations de langage étrangères. Selon lui, le chidouche de la Mishnah serait qu'on ne dira pas que puisqu'il s'agit ici d'une dérivation de langage, donc ce n'est pas une expression claire et intelligible. Ceci est l'explication du Ran au début de Maseret Nedarim, voir Tosfot ici sur place, et le Rosh Mishor qui propose une autre explication. Resh Lakish, quant à lui, pense que les Kinuyim, ce sont des mots inventés par les Chachamim pour ne pas qu'on vienne à prononcer le nom d'Hachem en formulant un vœu. Il y a une autre manière d'exprimer un vœu. C'est ce que la Gemara appellera Yadot, qui veut dire littéralement « manche d'un ustensile ». C'est l'image de quelqu'un qui tient l'ustensile par le manche. Il est vrai qu'il ne tient pas l'ustensile lui-même, mais il n'en tient pas moins l'ustensile. Là aussi, il s'agit d'une phrase pas claire ou incomplète, qui néanmoins nous laisse sous-entendre sa volonté d'exprimer un vœu. Il y a deux catégories de ce qu'on appelle Yadot, phrase qui nous laisse sous-entendre sa volonté d'exprimer un vœu. Il y a ce qu'on appelle Yadaim Mochichot, une phrase incomplète mais probante, c'est-à-dire par le contexte dans lequel a été exprimée cette phrase, on peut comprendre sans doute possible que sa volonté était d'exprimer un vœu. La deuxième catégorie est ce qu'on appelle Yadaim She'ena Mochichot. Il s'agit donc de la phrase incomplète qui n'est pas probante. Il s'agit donc d'un cas où le contexte dans lequel cette phrase a été dite nous laisse quand même un certain doute quant à sa volonté, mais quand même, il s'agit d'un cas où il est plus probable d'interpréter sa phrase comme voulant exprimer le vœu en question. Par contre, si le contexte dans lequel cette phrase a été dite nous laisse dans le doute le plus complet. On ne tiendra pas compte de cette phrase et on ne dira pas qu'il y a eu là une expression de vœu et donc le vœu ne prendra pas effet. Pour cette dernière catégorie, donc du Adam Shenan Mochichot, il y a une grande machloquette Rishonim, notamment entre le Rosh et le Tosfot dans Kiddushin Daf He Amud Bet et ici aussi dans notre Maserhet, à savoir si le cas du Adam Shenan Mochichot sera aussi accepté comme une expression de vœu ou non. Nous choisirons ici l'opinion du Rosh qui dit que cette manière de s'exprimer est considérée comme aussi l'expression d'un vœu. Sur ce, nous commençons la Mishnah. Kol kinuyeh nezirut kinzirut. Tout dialecte ou surnom du terme de nazir sera considéré comme le terme de nazir lui-même. C'est-à-dire, toute personne qui emploie un dialecte, ou bien selon l'avis de Resh Lakish, celui qui emploie un des termes inventés par les Chachamim pour représenter le terme de nazir, nous considérons cette personne comme ayant exprimé la volonté de devenir nazir, comme s'il avait employé le terme de nazir lui-même. La Mishnah expliquera par la suite. Maintenant, la Mishnah va nous parler d'une autre possibilité de formuler un vœu, c'est ce qu'on appelle yadot, c'est-à-dire une phrase incomplète qu'on interprétera selon son contexte. Haomer ehe, celui qui dit « je serai », hareze nazir, cette personne sera nazir parce que nous considérons qu'il a exprimé la volonté de devenir nazir. L'Agmar expliquera pourquoi. O ehe nae, ou bien s'il dit « je serai beau », nazir, nous dirons aussi qu'il devient nazir parce que par là aussi il a exprimé sa volonté de devenir nazir. Maintenant la Mishnah revient au surnom. Nazik, nazir, pazir, hareze nazir, celui qui emploie un de ces trois termes, qui sont très proches du terme de nazir, nous dirons aussi qu'il deviendra nazir. C'est ce qu'on appelle donc les kinouïm. Maintenant, la Mishnah va continuer à nous parler des yadot, donc des phrases incomplètes. Mais avant, nous parlions, comme nous le verrons dans la Gemara, selon l'interprétation du Roche, de phrases incomplètes, non probantes. Alors que, dans la suite de la Mishnah, nous parlons d'une phrase qui est beaucoup plus signifiante, qui serait donc Yadai Mochichot, une phrase incomplète, probante. Hareni Kaze, celui qui dit, en montrant un nazir, je serai comme celui-ci. Hareni Mesalsel, je tournerai. Là, la Mishnah comprend cette phrase comme voulant dire, je laisserai pousser mes cheveux jusqu'à pouvoir les tortiller. Hareni Mechalkel, je laisserai pousser mes cheveux au point d'avoir beaucoup de mèches, de cheveux. Hare Alai Leshaleh Arpera, je m'engage à laisser pousser mes cheveux au point qu'ils soient longs et désordonnés. Hareze Nazir, cette personne deviendra Nazir. Nous dirons que cette phrase qu'il a voulu dire a exprimé sa volonté de devenir Nazir. Hare Alai Tziporim, celui qui dit je m'engage à offrir des oiseaux. Rabbi Meir Omer Nazir, Rabbi Meir dit que cela veut dire aussi qu'il aura voulu être Nazir. La Gemara expliquera pourquoi. Vachachamim Omrim, et non nazir, les Chachamim disent que cela ne veut pas dire qu'elle a voulu s'engager à devenir nazir. Cette Mishnah sera amplement commentée dans la Gemara.
La Gemara demande, Mirdei Tana Beseder Nashim Kae, puisque le rédacteur de notre Mishnah est en train de rédiger l'ordre des femmes qui traite des lois concernant les femmes, Maïta Matane Nazir, pourquoi a-t-il enseigné le traité de Nazir qui n'a rien à voir avec les femmes? En fait, sa place aurait dû être dans l'ordre de Kodshim qui parle de l'offrande de Korbanot. L'Agma répond, Tana Akra Kae, le rédacteur de notre Mishnah se réfère au pasuk de Dvarim Kavdalet, dans le paragraphe concernant les divorces. Le pasuk dit, Vehaya Imlotim Tzachem Be'enav, et il sera, si elle, parlant de la femme avec laquelle il s'était marié, ne trouvera plus grâce à ses yeux, Kimatsaba Ervat Davar, parce qu'il a trouvé, découvert chez elle une conduite indécente. Alors le passage continue et dit qu'il pourra la divorcer. Il est vrai qu'à la fin de la Masechet Gittin, il est enseigné qu'une personne a le droit de divorcer pour n'importe quelle raison, mais puisque l'Agmara, justement à la fin de Gittin, condamne le divorce pour des raisons futiles, nous pouvons estimer donc que la majorité des cas de divorce ont pour cause l'adultère. Ve'arikama, et c'est ainsi que le rédacteur de la Mishnah a voulu nous dire, Migaramla le'avera yain, quelle est la cause de l'adultère? C'est le vin. Il y a lieu donc de s'éloigner du vin pour éviter ces écarts. Vekama, et en plus, Rebi, qui est le rédacteur de Mishnayot, nous a dit, Kol haroe sota bekilkula, tout celui qui assiste à la déchéance de la sota, c'est-à-dire tout celui qui assiste à la cérémonie dans laquelle celle soupçonnée de l'adultère devait prêter serment, et puis après on lui faisait boire
un verre d'eau spéciale, comme c'est écrit dans la Maseret Sota. Et puis, s'il s'avère qu'elle avait commis l'adultère, son ventre éclatait et sa hanche tombait. Alors, ce que Rabbi veut nous dire, c'est qu'une personne assistant à cette cérémonie, Yazir Atzmo Min Hayayin, il a la mitzvah de prendre sur lui un vœu d'abstinence, de Nazir donc, pour s'abstenir du vin. Cela, d'ailleurs, Rabbi l'apprend du fait que la Torah juxtapose le paragraphe concernant le Nazir et celui concernant la Sota. En d'autres termes, ce que le rédacteur de la Mishnah voulait nous enseigner, c'est par le fait que Nazir est enseigné dans l'ordre de Nashim, c'est pour nous montrer que le Nazir, l'abstinence, donc, est une prévention contre la Sota et le divorce. En ce qui concerne l'ordre de ces Masertot, ce sera expliqué au début de Maseret Sota. La Gemara demande Patar Bekinuyim. La Mishnah commence par introduire le sujet des Kinuyim, les surnoms des Nedarim ou de Nezirut, ou Mefaresh Yadot, et finalement elle se lance dans l'explication des Yadot. C'est des phrases incomplètes dont on interprète l'explication selon le contexte, alors que ce sujet n'a même pas été introduit dans la Mishnah. La Gemara répond Amar Rava. Rava répond Vitema Kedi. Et selon une autre version, c'est un Amora nommé Kadi qui a donné cette réponse. Chisure Mersera Bachi Katane. Il manque une phrase dans la Mishnah et c'est ainsi qu'il faut lire. Kol Kinuye Nezirut Kinzirut. Tous les surnoms parlant du Nazir sont considérés comme le Nazir, c'est-à-dire tous surnoms employés dans le contexte de Nezirut seront considérés comme si la personne a employé la formule même de Hareni Nazir. Veyadot Nezirut Kinzirut. Et les phrases incomplètes concernant le Nazir seront considérées aussi comme si la phrase a été exprimé d'une manière claire. Ve'eluhen yadot. Et voici les cas de yadot, de phrases incomplètes. Par exemple, Haomer ehe, celui qui dit je serai, hareze nazir, cette personne deviendra nazir. Il a pris sur lui l'engagement de devenir nazir. La Gemara expliquera. À la Gemara demande, velifouj kenuye berecha, on n'a qu'à expliquer les surnoms en premier, puisque finalement, c'est par les surnoms, par les kinuim, que la Mishnah a entamé son introduction. La Gemara répond, Tana mehahu de salik. Le rédacteur de notre Mishnah commence par expliquer la règle qu'il a énoncée en dernier, Kedetnan, comme nous voyons dans une Mishnah de Masechet Shabbat au début du deuxième Perek, Bame Madlikin ou Bame Madlikin. La Mishnah commence à poser cette question, avec quelle matière on peut allumer les bougies pour Shabbat et quelle matière n'a-t-on pas le droit d'utiliser pour allumer les bougies du Shabbat. En effet, il y a des matières soit employées en tant que mèche, soit employées en tant que combustible, qui ne brûlent pas bien, dont la flamme, par exemple, crépite, et on risque donc d'être amené à réparer la flamme pendant Shabbat. En tout cas, donc, la Mishnah se pose quelle matière a-t-on le droit d'utiliser pour les bougies du Shabbat et quelle matière n'a-t-on pas le droit d'utiliser. Et la Mishnah répond là-dessus, « Umefaresh en madlikim berecha ». Et en premier, la Mishnah énumère les matières qu'on n'a pas le droit d'employer pour allumer les bougies du Shabbat. Nous voyons donc bien que la Mishnah explique la règle qui a été énoncée en dernier. Deuxième exemple, toujours dans Shabbat, Daf Menzayin, au début du quatrième Perek, Bame Tomnim ou Bame En Tomnim. Alors la Mishnah se pose la question suivante, quelle matière a-t-on le droit d'employer pour envelopper une casserole pour maintenir la chaleur de celle-ci jusqu'à l'heure du repas, et quelle matière n'a-t-on pas le droit d'employer pour envelopper une casserole. Le problème est qu'on n'aurait pas le droit d'enfouir une casserole dans des braises, de peur à ce qu'on vienne à remuer les braises pour augmenter la chaleur de celle-ci. Par extension, les Chachamim ont interdit d'employer toute matière qui aurait des propriétés de générer de la chaleur. En tout cas, donc la Mishnah se pose comme question quelle matière a-t-on le droit d'employer, quelle matière n'a-t-on pas le droit d'employer pour envelopper une casserole. Ou me faresh en tomnim berecha. La Mishnah explique en premier ou énumère en premier les matières qu'on n'a pas le droit d'employer pour envelopper une casserole. Nous voyons donc là aussi que la Mishnah explique en premier la règle qui a été énoncée en dernier. Troisième exemple, toujours dans Maseret Shabbat, au début du sixième Perek, la Mishnah se pose la question suivante, Bame Isha Yotza ou Bame Ena Yotza. Quel bijou peut porter la femme quand elle sort dans le domaine public? Quel bijou une femme n'a pas le droit de porter en sortant dans le domaine public? La question se pose, c'est parce qu'on n'a pas le droit de transporter un objet dans un domaine public sur une distance de plus de 4 coudées. Si une femme porte des bijoux dans la rue, elle risque de vouloir les enlever pour les montrer à une amie. C'est pourquoi donc les Chachamim ont interdit le port des bijoux dans le domaine public. Les Chachamim ont néanmoins permis à la femme de porter des bijoux qu'elle n'oserait pas enlever en public. En tout cas, donc, la Mishnah se pose la question, quel bijou la femme a le droit de porter quand elle sort dans la rue, quel bijou n'a-t-elle pas le droit de porter? Et la Mishnah répond, « Umefaresh lo tetse isha berisha ». Et la Mishnah énumère les bijoux qu'elle n'a pas le droit de porter en sortant dans la rue en premier. Nous voyons donc bien, là encore, que la Mishnah explique en premier la règle qui a été énoncée en dernier. C'est pourquoi, donc, dans notre Mishnah, aussi la Mishnah explique les hadot, dont la règle a été insérée en dernier. La Gemara demande, voici que nous voyons aussi les exemples du contraire, où la Mishnah explique ou énumère en premier la règle qui a été énoncée en premier. Par exemple, Vehatnan, voici qu'il a été enseigné dans une Mishnah, toujours dans Maseret Shabbat, au début du 5e Perek. Bame Behema Yotza ou Bame Ena Yotza. Qu'est-ce que l'animal a le droit de porter quand elle sort dans la rue? Qu'est-ce que l'animal n'a pas le droit de porter quand elle sort dans la rue? Le problème est, c'est que une personne n'a pas le droit de faire travailler son animal, par conséquent donc, il n'a pas le droit de faire porter des objets à son animal dans la rue. C'est pourquoi, tout objet qui est une nécessité pour l'animal ou pour son propriétaire, par exemple pour la garder, comme le collier pour le chien, sera permis. Par contre, tout le reste sera interdit. En tout cas, donc la Mishnah se pose la question suivante, avec quel objet l'animal a le droit de sortir dans la rue et avec quel objet l'animal n'a pas le droit de sortir dans la rue. Umefaresh yotze gamal beresha. Et la Mishnah commence sa réponse par dire, le chameau peut sortir portant un likou. En d'autres termes, la Mishnah commence à énumérer les objets que l'animal a le droit de porter. Donc, la Mishnah explique la première règle qui a été introduite dans la Mishnah. Autre exemple, là dans Baba Batra, au début du 8e Perek, il s'agit d'une Mishnah traitant de l'ordre de succession. La Mishnah dit, « Yesh nochlim umanchilim » Il y a des membres de la famille qui à la fois héritent et qui transmettent l'héritage, donc dont le droit d'héritage est réciproque. L'un des exemples cités dans la Mishnah est le fils. Le fils donc hérite son père et aussi transmet l'héritage à son père, c'est-à-dire que si le fils vient à mourir sans laisser de descendance, son père l'héritera. Nochalim velomanchilim. Il y en a qui héritent, mais qui ne transmettent pas l'héritage, c'est-à-dire dont le droit d'héritage n'est pas réciproque. Par exemple, c'est le fils par rapport à sa mère. Le fils hérite sa mère, mais sa mère ne l'hérite pas si celui-ci meurt sans descendance. Manchilin velo nochalim, il y en a qui transmettent l'héritage mais qui à leur tour n'héritent pas. Là c'est le contraire, c'est-à-dire la mère transmet l'héritage à son fils à sa mort, mais par contre la mère n'héritera pas son fils. Lo nochalim velo manchilin, il y en a qui même s'ils sont parents, ni ils n'hériteront ni ne transmettront l'héritage. En d'autres termes, il y en a dont le lien de parenté ne donnera pas droit à l'héritage. Il s'agit de demi-frères maternels, et cela parce que seuls ceux dont le lien de parenté est paternel auront droit à l'héritage. En tout cas, donc voici les quatre règles générales qu'introduit la Mishnah. Umefaresh elu nochalim umanchilin beresha. Et la Mishnah commence par expliquer la première catégorie de ceux qui héritent et qui transmettent l'héritage. Donc nous voyons à deux reprises que la Mishnah commence par interpréter la première règle, la règle qui a été énoncée en premier. Et là, c'est pourquoi la Gemara répond, le olam taneachi ve taneachi. Toujours pourrais-je te dire que des fois, la Mishnah commence par interpréter la règle qui a été énoncée en premier. Des fois aussi, elle commence par interpréter celle qui a été énoncée en dernier. Seulement, la Gemara précise que pour chaque fois, l'auteur de la Mishnah avait une raison. Et là, hatam de isura de nafshehu. Là-bas, dans les trois premiers cas qui ont été enseignés dans la Gemara à propos des lois de Shabbat. Donc c'était le cas de quel matériau pouvait-on utiliser pour allumer les bougies, ou bien avec quoi on pouvait envelopper la casserole chaude, ou bien avec quel bijou la femme pouvait sortir dans la rue. Hatam de isura de nafshehu. Là-bas, quand il s'agit d'une interdiction qui vise la personne elle-même, c'est-à-dire c'est une chose que la personne a le droit ou n'a pas le droit de faire, mais faresh isura de nafshe beresha. C'est pourquoi la Mishnah choisit d'expliquer l'interdit en premier, qui est l'interdiction qui concerne l'homme. Donc c'est pourquoi la Mishnah explique en premier quels sont les matériaux qu'on n'a pas le droit d'utiliser pour allumer les bougies, quels sont les matériaux qu'on n'a pas le droit d'utiliser pour envelopper la casserole, etc. Par contre, Gabé Behema, à propos de l'animal, donc c'était l'autre cas cité par la Gemara, quelles sont les choses que l'animal a le droit de porter pendant Shabbat? Là-bas, la Mishnah avait commencé par expliquer, énumérer ce que l'animal avait le droit de porter. Alors là, la Gemara explique, des sourades, aïde, behema, ou deate. Là, l'interdiction vise l'animal. En d'autres termes, cette interdiction ne vise pas directement l'homme, mais c'est l'animal qui n'a pas le droit de sortir. Ainsi, mefaresh, hetera berecha. C'est pourquoi la Gemara explique qu'on explique ce qui est permis en premier, et cela parce que c'est une interdiction plus légère, puisqu'elle ne concerne pas directement l'homme.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Daf Bet Amud Bet. Gabe Yeshno Halim, à propos de la Mishnah concernant l'ordre de succession, Nami Mefaresh Ikar Nachala Berecha. La Mishnah cherche à expliquer en premier le cas normal de l'héritage, donc c'est le cas du fils qui hérite son père. C'est pourquoi la Mishnah cite en premier les cas de ceux dont les droits d'héritage sont réciproques. Et la hacha, par contre, ici, l'ifroche qui nous y est berecha, puisque nous avons le choix, la Mishnah aurait dû choisir d'énumérer les surnoms en premier, puisque comme le précise le Shittam Kubetset au nom du Tosfot Arosh, les surnoms sont aussi une manière normale de parler, alors que les hadot sont des phrases incomplètes. Donc on aurait dû les reléguer au second plan. Anagma répond, Ela haynu tam yadot, seulement la raison pour laquelle la Mishnah a choisi d'énumérer les hadot en premier, ho'il ve'atyan le midrasha, c'est parce que le fait qu'une formule incomplète soit suffisante pour que le vœu de Nezirut prenne effet, nous l'apprenons d'une drasha, d'une interprétation du pasuk. En effet, dans la Gemara de Nedarim Daf Gimel Amud Alef, nous cite le pasuk dans Bamidbar Vav au début du paragraphe concernant la Nezirut. Ce pasuk dit Ish ki afli, une personne qui s'exprimera clairement, Lindor Neder Nazir, pour prendre sur lui un vœu de Nezirut, Lehazir Lachem, pour devenir Nazir pour Akadosh Baruch Hu. Les termes de Lehazir Lachem sont en trop. Nous apprenons de là que même Lehadot, une formule donc incomplète, sera suffisante pour que ce vœu prenne effet. Alors, puisque donc nous apprenons cet halakha d'une drasha, Chavivinle, cet enseignement est cher aux yeux de l'auteur de la Mishnah, c'est pourquoi il a voulu les interpréter en premier. En la Gemara demande, Vliftach Bohon Berecha, en la Gemara demande, si cet enseignement concernant les Hadot est cher aux yeux de l'auteur de la Mishnah, alors l'auteur de la Mishnah n'avait qu'à commencer par introduire aussi les Hadot en premier. Pourquoi est-ce qu'il a commencé par introduire les Kinouim? Il est vrai que le concept des Hadot est absent dans notre Mishnah. Nous l'avons inséré par la suite, comme nous l'avons vu dans la Gemara, nous aurions pu donc l'insérer n'importe où dans la Mishnah, même tout au début. Mais en fait, il est quand même plus compréhensible que le Tana, l'auteur de la Mishnah, donc, ait oublié une phrase au milieu de la Mishnah que de dire qu'il ait oublié une phrase au début de la Mishnah. C'est pourquoi la Gemara comprend ici que les Kinouim ont été enseignés en premier. Donc, c'est pour ça que la Gemara demande pourquoi est-ce qu'on n'a pas commencé par introduire les Hadot. La Gemara répond, Tana Kimatril, quand l'auteur de la Mishnah commence par enseigner la Maserhet Nazir, Matril Beikar Korban. Il commence par introduire la manière essentielle et normale de formuler un vœu. Le vœu est symbolisé par le Korban, comme nous voyons au début de la Maserhet Nazir, où tous les vœux prennent effet, interdisant l'utilisation ou la consommation d'un objet comme un Korban. Alors c'est pourquoi donc la Mishnah commence par introduire les kinouim, qui est la manière normale de formuler un vœu. Ou l'inyan perouché. Par contre, quand l'auteur de la Mishnah va expliquer les différentes lois concernant les vœux, mefaresh yadot berecha, il commence par expliquer et énumérer les cas d'yadot en premier, parce que nous l'avons vu, cette loi, nous l'apprenons d'une drasha, et c'est donc une loi qui est chère aux yeux de l'auteur de la Mishnah. Nous notons ici que nous voyons la même Gemara, donc la même discussion au début de la Maseret Nedarim concernant le même problème, la Gemara conclut un peu différemment. En fait, les Rishonim expliquent que nous voyons plusieurs fois des Gemarot qui se complètent ou qui arrivent à d'autres conclusions.
Et cela parce qu'il peut s'agir d'un autre rédacteur de la Gemara ou d'une deuxième version de la même discussion. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Ha'omer ehe hareze nazir » Celui qui dit « Je serai », alors il deviendra nazir. Alors la Gemara demande « Dilma ehe betanit kamar » Peut-être que ce qu'il a voulu dire « Je serai en état de jeûne » En d'autres termes, peut-être qu'il a pris sur lui un engagement de jeûner. Qu'est-ce qu'il nous a dit qu'il a voulu prendre sur lui un engagement de devenir nazir? La Gemara répond « Amar Shmuel que gonshaya nazir over le fanav » Il s'agit d'un cas où un nazir passait devant lui. Et c'est pourquoi nous interprétons donc cette phrase « Je serai » comme se rapportant à la personne qui passe devant lui, et nous comprenons ainsi son désir de vouloir devenir nazir. La Gemara demande « Lema kasavar Shmuel » Peut-être que nous dirons, nous prouvons de là que Shmuel pense « Yadaim she'enan mochichot la vienadaim » qu'une phrase incomplète, non probante, donc dont l'intention de la personne qui la formule ne peut pas être formellement définie, n'est pas considéré comme une phrase, une formule suffisante pour un engagement quelconque, par exemple dans notre cas pour l'engagement de devenir nazir. Parce que si une phrase incomplète, non probante était suffisante pour un engagement, Shmuel n'aurait pas eu besoin de dire qu'il s'agit d'un cas où un nazir passe devant lui. La Gemara comprend ici que le terme de Ehe, je serai, laisse entendre un changement dans la personne. Dans ce cadre-là, nous pouvons beaucoup mieux comprendre ce terme de ehé comme voulant dire que cette personne voulait devenir nazir. Une personne étant nazir est devenue une autre personne. En effet, cette personne est appelée nazir. Alors qu'une personne qui jeûne ne change pas de nom. C'est une personne qui jeûne, mais elle reste toujours la même personne. Il serait donc beaucoup plus logique d'interpréter le terme de ehé comme voulant dire un engagement de nazirut. Il est vrai donc qu'après cette phrase de ehé, un doute peut quand même persister. C'est pourquoi donc nous l'appellerons cette phrase comme étant Yadaim Shenam Mochichot, une phrase incomplète, non probante, mais quand même, il est beaucoup plus logique de l'interpréter comme voulant parler d'un engagement de Nézirut. Nous voyons donc de là que si Shmuel dit que cela n'est pas suffisant, il faut qu'un nazir passe devant lui pour interpréter cette phrase comme voulant parler d'un engagement de Nézirut, nous voyons donc qu'il pense qu'une phrase incomplète, non probante n'est pas suffisante pour un engagement. Amré, l'Agma répond, les sages de la Yeshiva ont répondu, toujours pourrais-je te dire que Shmuel pense qu'une phrase incomplète non probante est suffisante pour un engagement. Mais ici c'est différent, parce que Bisman, chez Nazir over le Fanav, dans le cas où un Nazir passe devant lui, l'Eka le Sefuke bemilta acharina, n'ont pas de doute quant à son intention. Aval vadai en ha Nazir over le Fanav, mais il est évident que si il ne s'agit pas d'un cas où un Nazir passe devant lui, Amrinan, on interprétera donc son terme de Ehe, Dilma Ehe betanit kama. Peut-être que ce qu'il a voulu dire, je serai en jeûne, en d'autres termes, je jeûnerai. Là, la Gemara revient sur sa compréhension initiale, et maintenant elle comprend que le terme de Ehe ne veut pas dire plus un engagement de Nézirut qu'un engagement de jeûner. C'est pourquoi donc, dans le cas où nous avons un doute à ce sujet, nous faisons intervenir ici une autre règle que ça fait que Nézirut l'a qu'elle. Si nous avons un doute, si une personne a pris sur soi un engagement de devenir nazir ou non, nous irons pour la Kula, nous dirons qu'il n'y a pas donc d'engagement de devenir nazir. Par contre, si un nazir passe devant lui, nous avons quand même un doute qui persiste à ce sujet. Nous ne pouvons pas être à 100% sûr qu'il a voulu dire qu'il voulait s'engager à devenir nazir. Nous appellerons donc cela « Yadaim She'enan Mochichot », une phrase incomplète qui n'est pas probante. Mais puisque, selon le contexte, parce que là il s'agit d'un cas où le nazir passe devant lui, nous comprenons mieux cette phrase comme voulant dire un engagement de nazir, c'est pourquoi nous décidons qu'il est devenu nazir. La Gemara demande, peut-être que ce qu'il a voulu dire en voyant ce nazir passer devant lui, c'est qu'il voulait se mettre à sa place pour l'offrande des korbanot qui doivent être offerts à la fin de la période de Nézirut. Et en fait, le terme de Ehe sera interprété comme suit, je serai à sa place pour l'offrande des korbanot. Donc finalement, d'où est-ce qu'on sait qu'il a voulu prendre sur lui un engagement de devenir nazir? Elle m'a répondu, de Kamar Belibo. Il s'agit d'un cas où on l'a questionné sur ses intentions et il a affirmé qu'effectivement, il avait l'intention de prendre sur lui un engagement de devenir nazir. Alors, puisqu'il s'agit ici d'un léger doute, puisque le terme de Ehe s'interprète beaucoup mieux quand il veut dire un engagement de nazirut que quand on l'interpréterait comme engagement d'offrir les korbanot à la place du nazir. C'est pourquoi, donc, quand il nous dévoile ses intentions, cela suffit pour interpréter ses paroles comme parlant d'un engagement de Nézirut. Alors que dans le cas précédent, où il s'agissait d'un cas où il avait dit « je serai » et un nazir ne passait pas devant lui, là, puisque cette phrase ne veut rien dire du tout, alors le fait qu'il nous dévoile ses intentions ne suffit pas pour qu'on interprète ses paroles comme un engagement de Nézirut. Alors Gmara demande « si c'est comme ça, s'il s'agit d'un cas où il nous dévoile ses intentions, maï le memra, quel le chidouche la Mishnah ?» Puisque, une fois qu'il a dit cette phrase, dans le cas où un nazir passe devant lui, et en plus il nous dévoile ses intentions comme voulant dire qu'il voulait prendre sur lui un engagement de Nézirut, alors quel est le chidouche ? L'agma répond, Maoudetema, peut-être que j'aurais pu dire que Bainan Pivelibo Shavim, il faut que ses paroles et ses pensées concordent. En d'autres termes, il faut que ses paroles expriment clairement ses pensées, et cela parce que le pasouk parlant de Nézirut dit qui afflit qu'il exprime clairement ses pensées. Alors il est vrai que nous avons déduit, comme nous l'avons vu plus haut, du terme de l'azir l'Hachem, que même des paroles, une phrase incomplète suffit pour prendre sur soi un engagement de Nézirut, mais si, en plus du contexte, il faut qu'il affirme que ses pensées étaient comme nous avons interprété ses paroles, cela peut-être ne sera pas considéré comme une parole assez claire pour pouvoir les accepter comme engagement de Nézirut. Kamash Malan, c'est pourquoi la Mishnah nous enseigne que dans le cas où il s'agit d'un léger doute, nous pourrons accepter sa phrase incomplète, après avoir vérifié qu'effectivement son intention était d'accepter sur soi un engagement de Nézirut, pour dire que cette personne s'est engagée à devenir Nazir. Nous avons fini ici le shiur de Nazir Davbet. Nous commençons le shiur de Nazir Dav Gimel, nous commençons Davbet Amud Bet, à la 7e ligne du bas de la page, haut de point. L'Agma reprend le passage de la Mishnah qui dit « Ehenae Nazir ». Celui qui dit « Je serai beau, je m'embellirai », cela veut dire aussi qu'il devient Nazir. L'Agma demande « D'où est-ce qu'on sait qu'il a voulu s'embellir par l'accomplissement de la mitzvah de Nazir ?»« Ehenae lefanav be mitzvot » Peut-être qu'il a voulu s'embellir par d'autres mitzvot. « Kedetania » Comme nous voyons dans une braïta qui interprète le pasouk de Shemot Tetvav que nous lisons dans la Shira tous les jours. « Ze keli vanvehu » Ceci et mon Dieu, je l'embellirai. La Braïta interprète. Ena elefanav be mitzvot. Je m'embellirai devant lui, devant Kadosh Baruch Hu, par l'accomplissement de mitzvot. Par exemple, et selefanav souka na'a. Je ferai devant lui une belle souka. Lulav na'e. Un beau lulav. Tzitzit na'e. Des beaux tzitziot. Ertov lefanav sefer Torah na'e. J'écrirai devant lui un beau sefer Torah. Bekrechenu beshiraim na'im. Et je l'enrobrai de belles soirées. Finalement, donc, nous voyons dans cette Braïta que le terme de na'e, embellir, peut vouloir dire aussi d'autres mitzvot. Donc d'où est-ce qu'on sait que cette personne parlait de la mitzvah de Nazir? L'Agma répond, Amar Shmuel Shetafus Besaro. Il s'agit d'un cas où cette personne en disant je m'embellirai, s'attrapait les cheveux. Ve Amar Enae, et il a dit je m'embellirai. Alors nous interprétons ces paroles comme voulant dire je m'embellirai par la mitzvah de Nazir où on laisse pousser les cheveux. L'Agmara demande, Nezira Milta de Avera. Le fait de devenir nazir, c'est en fait un péché, comme le soulève le Shittam Kubetzet. L'Agmara ramènera par la suite que Rabbi Lazar Hakapar dit que la raison pour laquelle un nazir doit amener à la fin de la période de Nezirut un korban khatat, c'est parce que la Torah considère que la personne a fauté par la souffrance qu'il s'est causée en s'éloignant du vin. C'était comme ça, puisque c'est un péché de faire la Nezirut, Vamrinanle Nae, on lui dit que c'est une action belle et louable, et nous dirons que quand une personne dit « je serai beau » en se tenant les cheveux, nous disons qu'il a voulu se rendre beau par l'accomplissement de la mitzvah de Nazir.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.